Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Des frappes simultanées ce matin sur Téhéran, en Iran, mais aussi au Liban, menées par Israël au quatrième jour d'une guerre qui s'étend au Moyen-Orient. Nous irons à Beyrouth dès le début de ce journal, frappé aux premières lueurs du jour. Nous serons également à Washington, où Donald Trump promet une nouvelle vague de bombardements sur l'Iran et n'exclut pas l'envoi de troupes au sol. Enfin, des peines pas plus lourdes, voire même allégées pour trois des quatre hommes jugés en appel au procès de l'assassinat de Samuel Paty.
Le Liban, une nouvelle fois visé ce matin par Israël.
De violentes explosions entendues tôt ce matin dans la capitale, Beyrouth, sur place et en direct. Marion Gauthier, vous êtes l'envoyé spécial RMC. Des frappes ciblées contre le Hezbollah qui se multiplient depuis plus de 24 heures maintenant.
Oui, les habitants ici les comptent par dizaines près de l'ambassade iranienne, de l'aéroport hier soir. Beyrouth s'est réveillée ce matin au son des bombes lancées sur sa banlieue sud, le quartier où vivent majoritairement les membres du Hezbollah. Une épaisse fumée grise s'élève dans le ciel. Le son des avions militaires, des drones, pèse sur le moral de certains. Il y a de la résignation aussi chez Maria, une infirmière de 21 ans.
Ma famille vit dans le sud du pays et moi je suis forcée de rester ici pour le travail. C'est dur de voir les gens perdre leur maison, leur travail, des familles déchirées. C'est quelque chose qui aurait pu être évité. J'étais là il y a 2 ans, j'espérais que ce serait la dernière guerre, mais je savais que ça pouvait arriver de nouveau. Je suis triste et déçue, je suis triste pour mon pays, vraiment.
Des frappes donc sur Beyrouth, mais Téhéran également, des frappes menées par Israël, action militaire justifiée cette nuit par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, s'est exprimé cette nuit dans une interview à la chaîne américaine Fox News, Marion.
Oui, il l'a justifié par le développement des programmes nucléaires et de missiles balistiques iraniens. Le Premier ministre israélien assure que l'Iran avait commencé à construire de nouveaux sites, des bunkers souterrains qui auraient bientôt été intouchables. « Vous n'allez pas avoir une guerre sans fin », a tout de même insisté Benjamin Netanyahou. « Cela pourrait prendre du temps », dit-il, « mais pas des années ».
Marion Gauthier, envoyée spéciale RMC à Beyrouth en direct ce matin. Autre prise de parole, celle de Donald Trump qui promet de répondre à l'incendie de l'ambassade américaine à Riyad, cible de drones iraniens. Les États-Unis affirment ce matin avoir détruit des postes de commandement des gardiens de la révolution. Et ce n'est pas fini. Antoine Lard, vous êtes le correspondant RMC à Washington. Le président américain hausse le ton et avertit l'Iran que le pire est à venir.
Oui, on voit que Donald Trump montre les muscles. Il dit que l'Iran n'a encore rien vu et promet que la grosse vague de bombardements reste à venir. Pour bien montrer sa détermination, le président fait savoir qu'il n'exclut pas d'envoyer des troupes au sol. Pour le moment, ça n'est pas du tout d'actualité, mais Trump dit que si c'est nécessaire, il le fera. Ce sujet est très sensible pour l'opinion publique américaine et cette déclaration, c'est avant tout un message pour Téhéran, une façon d'afficher qu'il est prêt à aller au bout. Le président qui détaille enfin les objectifs de cette opération, alors qu'il y avait beaucoup de flou à ce sujet ces derniers jours, Trump désormais définit 4 objectifs. Détruire tous les missiles iraniens et les usines qui les produisent, anéantir la marine, pas d'armes nucléaires et faire enfin en sorte que l'Iran ne finance plus les groupes terroristes. Trump ne parle plus de changement de régime et assure que les opérations pourraient se poursuivre au-delà des 4 à 5 semaines qu'il avait annoncées.
Une guerre avec ses conséquences économiques importantes à l'échelle mondiale, conséquence du blocage du détroit d'Ormuz. L'Iran menace de brûler tout navire qui s'aventurerait dans cette zone maritime incontournable de la région, voie de passage stratégique, Cassandre Brault, pour le pétrole et le gaz.
Oui, car les principales réserves de gaz mondiales se trouvent dans les sous-sols du Qatar et de l'Iran. La conséquence sur les marchés est donc inévitable, selon Jean-Pierre Favennec, spécialiste de l'énergie.
Ça va se voir sur le prix du gaz, sur le prix du pétrole, ça va se voir sur tous les prix de ces matières premières énergétiques. Donc on va avoir une crise assez forte.
Des inquiétudes sur le secteur de l'énergie, mais pas seulement. L'arrêt total du trafic dans le détroit d'Ormuz pénalise grandement le commerce maritime, selon Bruno Desmoura Fernandez, responsable macroéconomie chez Coface.
Justement, c'est un grand problème pour le commerce mondial parce que les bateaux devaient, au lieu de passer par là, faire le tour de l'Afrique et ça rajoutait entre 9 et 14 jours. Donc c'est considérable et ça augmente les coûts, etc.
D'autant que ce conflit arrive après l'offensive de Donald Trump sur les droits de douane, après le Covid et la guerre en Ukraine.
Le commerce mondial, il est clairement chahuté. Il y a une multiplication des impacts sur le commerce mondial. Si ça dure, il est probable qu'on ait vraiment de l'inflation.
En France, le ministère de l'économie va rencontrer quotidiennement les dirigeants des secteurs concernés par la guerre au Moyen-Orient, tant que la crise sera à ce pic d'intensité.
Enfin, notez que le trafic aérien reste toujours perturbé ce matin dans les pays du Golfe. Quelques avions ont pu tout de même décoller comme à Abu Dhabi où un vol a permis à près de 250 Français de rejoindre Paris hier soir. Vous entendrez leur soulagement dans le journal de 7h30. Et c'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron a présenté la nouvelle doctrine de dissuasion nucléaire de la France. Dissuasion avancée associant 8 pays européens. Ils n'auront pas le pouvoir de décision ultime, prévient le chef de l'État qui précise que la France restera souveraine en la matière pour être libre. Il faut être craint, dit le président qui annonce la construction d'un nouveau sous-marin lanceur d'engins et l'augmentation du nombre de têtes nucléaires sans en préciser le nombre. Il est 7h06, vous écoutez RMC. 4 hommes condamnés en appel hier au procès de l'assassinat de Samuel Paty, des peines de 6 à 15 ans de prison prononcées tard hier soir après plus d'un mois de procès. Ils étaient rejugés pour leur rôle dans la mort du professeur d'histoire-géographie en 2020, accusé d'avoir mené une campagne de haine en ligne contre le professeur. Pierre Bazin, service police-justice RMC, des peines qui n'ont pas été alourdies, au contraire.
Oui, parmi eux, seul le prédicateur Abdelhakim Sefrioui a été condamné à la même peine qu'en première instance, 15 ans de réclusion criminelle. Ses avocats ont annoncé qu'ils comptaient se pourvoir en cassation. Tous les autres voient leur condamnation allégée en appel. Brahim Chnina, le parent d'élève qui avait multiplié les vidéos sur les réseaux sociaux visant Samuel Paty, voit sa peine passer de 13 à 10 ans de prison en appel. Enfin, pour avoir fourni des éléments de logistique et avoir conduit Anzorov sur les lieux de l'attentat, les deux autres hommes qui étaient également poursuivis, ses deux amis, ont vu leur peine largement réduite en appel, condamnés tous les deux à 16 ans de réclusion criminelle en première instance. La cour spécialement constituée les condamne à 6 et 7 ans de prison. Il leur reste donc quelques mois de détention puisqu'ils sont incarcérés depuis plus de 5 ans tous les deux.
Évoquant une hospitalisation à Genève, Tariq Ramadan n'était pas présent hier à l'ouverture de son procès à Paris. Une expertise a donc été ordonnée par la cour criminelle avant la reprise de l'audience cet après-midi. Le prédicateur doit y être jugé pour 3 viols. Le propriétaire de Curtis, jugé pour homicide involontaire à partir d'aujourd'hui. Curtis, c'est le nom de ce chien, soupçonné d'être à l'origine de la mort d'Elisa Pilarski, mordue par l'animal de son compagnon. Elle avait été retrouvée sans vie dans une forêt de laine en 2019. Et puis un chiffre maintenant, 1,2 milliard. C'est en euros le coût de la première estimation des dégâts des tempêtes Niels et Pedro qui ont balayé l'ouest du pays en février. C'est le résultat d'une estimation de France Assureur. Et puis un mot de la Coupe de France avec le début des quarts de finale. Strasbourg reçoit Reims à 21h. Ce soir, ce sera à vivre bien évidemment sur RMC.
C'était le journal de Thibaut Texer, il est 7h08.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Aucune goutte de pétrole ne doit quitter la région. Voilà la menace cette nuit d'un général iranien qui promet donc que les prix du baril vont atteindre les 200 dollars dans les jours qui viennent. Bonjour Anne-Sophie Alsif. Bonjour. Vous êtes économiste, spécialiste de ces questions d'énergie. Est-ce que on pourrait manquer d'essence en France? Est-ce que les prix vont vraiment augmenter? Vous voulez rassurante ce matin? Non, pour le moment, ni pénurie, ni explosion des prix. C'est votre parti pris, vous nous le dites dans un instant. Et vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à nous appeler au 3217. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h11 et vous êtes bien sur RMC et à la télé sur RMC Story Canal 23. Plus 40% pour le gaz européen, plus 13% pour le baril de pétrole. Les prix des hydrocarbures se sont envolés hier avec l'embrasement au Moyen-Orient. Bonjour Anne-Sophie Alfis. Vous êtes économiste dans le cabinet d'audit BDO France. Votre parti pris ce matin, c'est que faut pas paniquer. C'est qu'il ne faut pas paniquer parce que pour le moment, il n'y a ni pénurie, ni explosion des prix à la pompe. Vous en êtes sûr?
Alors justement, vous l'avez très bien dit, pour le moment. Déjà, il faut voir de quel contexte on parle. On est dans un contexte post-guerre en Ukraine et post-Covid. Depuis ces deux crises, le monde s'est beaucoup diversifié sur les questions énergétiques. Et parce qu'on a eu en effet ces crises et ces deux situations particulières, on n'est pas du tout dans la situation 2019 ou 2010. L'autre élément, c'est qu'au niveau international et français, on a un fort ralentissement de l'inflation. L'inflation, c'était 1% en 2025. La prévision, c'est 1,3% cette année. Et pourquoi on a un des taux d'inflation les plus bas de la zone euro? Notamment en raison des prix de l'énergie qui sont très bas dans cette contribution. L'autre élément qui est important, c'est le poids et le baril du pétrole. Vous l'avez dit, il a augmenté, mais avant cette crise, on l'a vu quand il y a eu la crise avec Israël, hein, qu'est-ce qui s'est passé depuis la crise avec le Covid? C'est que les producteurs de pétrole ont énormément produit. Comme vous êtes dans un contexte où la croissance mondiale se maintient, voire ralentit, eh bien, en termes d'offres et de demandes, finalement, vous avez beaucoup d'offres, moins de demandes. Et c'est pour ça que même quand on a eu le conflit avec Israël, on a eu un baril qui est resté aux 65-70 $.
Est-ce que les attaques ciblées contre des infrastructures peuvent changer la donne? Quand on regarde qu'effectivement hier, le Qatar a donc annoncé l'arrêt de sa production de GNL, le gaz naturel liquéfié, après une attaque de drones iraniens, que cette nuit, l'Arabie Saoudite a été touchée par des attaques iraniennes. Et ce mot prononcé donc par un des hauts dignitaires du régime iranien qui dit « aucune goutte de pétrole ne quittera la région ».
Oui, là c'est sûr qu'on est dans la joute politique, voilà, pour des raisons évidentes économiquement. Là, en effet, la grande question, c'est combien de temps ça va durer ? Est-ce que ça va rester localisé dans la région ou on va vraiment assister à un conflit qui devient mondial ? Et là, en effet, si on est dans ce cas de figure, là, il y aura un impact significatif. Cet impact est beaucoup plus important pour le gaz, hein, en effet, avec la production du Qatar, que pour le pétrole, parce que comme je le disais, pour le pétrole, les conditions sont différentes, vu qu'il y a eu beaucoup de production depuis plusieurs
années. Parce qu'on a élargi, parce qu'on a diversifié... Oui. Le détroit d'Hormuz est aujourd'hui bloqué depuis cette nuit. Hein, 20% du pétrole mondial y transite et un certain nombre aussi de commerces en tout genre.
Tout à fait.
Combien de temps, au fond, ce que je comprends, c'est que vous êtes rassurante à court terme, mais vous vous dites, voilà, si ça dure, on aura plus de mal à tenir. À partir de quand est-ce que vous considérez que ça devient un problème ?
Alors, voilà, c'est très compliqué parce que ça dépend de dire par rapport à quand, qu'est-ce qui est bloqué et dans quelle proportion. Ce qu'on va voir à court terme, vous l'avez dit, c'est vraiment l'impact sur les prix. Donc c'est là, en effet, on peut être plus impacté en Europe. Vous l'avez dit pour le prix des hydrocarbures, mais pas seulement. Hein, dans ce détroit, vous avez aussi beaucoup de marchandises qui passent. Et donc, en effet, les containers vont augmenter leur prix. Et donc, ça peut avoir un impact sur l'inflation puisque le prix des marchandises pourrait être plus cher. Mais là encore, une fois, si c'est contenu, on n'est pas encore dans un choc inflationniste comme on l'a compris.
Alors, on a quand même besoin de comprendre parce qu'il y a un certain nombre d'auditeurs qui depuis ce matin nous envoient des messages ou nous appellent pour nous dire que les prix à la pompe ont déjà augmenté. C'est votre cas d'ailleurs, il me semble, Vincent. Vous êtes sur les routes. Bonjour Vincent.
Oui, bonjour Antoine.
Vincent,
bonjour,
qui est agent de la fonction hospitalière en Dordogne, vous avez fait le plein et vous avez constaté que ça avait déjà augmenté pour vous.
Ben, alors je sais pas si c'est lié au conflit actuel, mais en tous les cas, je sais que le gasoil, il a pris 4-5 centimes en quelques jours.
C'est-à-dire que là, il était à combien quand vous avez fait le plein ?
1,71,9.
D'accord. Et la semaine dernière ?
1,65,9 ou 1,66.
Donc ça, c'est dû à quoi ? Attendez, je vais demander immédiatement. Est-ce, ça, c'est dû à quoi, Anne-Sophie Alsif ?
Alors, dans le prix à la pompe, hein, comme ce monsieur est allé, vous avez plusieurs éléments qui composent le prix. Bien sûr, vous avez le prix du matière première. Donc, en effet, il y a cette augmentation parce qu'il y a cette crise et ce conflit. Donc, en effet, c'est tout à fait dû à ça. Mais pas seulement. Vous avez aussi la marge du distributeur. Et puis, vous avez aussi les taxes. Donc là, l'idée, c'est de dire quoi ? C'est de dire que dans les prochains jours, on va voir si la situation continue. En effet, vous pouvez avoir des augmentations et c'est déjà le cas. On l'a vu, quelques centimes parce que c'est lié à l'augmentation des matières premières.
Donc ça, c'est lié. Si c'est quelques centimes, c'est lié.
Exactement. Par contre, après, si ça dégénère ou si on a vraiment un très grand choc, eh bien, il y a des mécanismes qui existent pour essayer de moduler ou de tempérer cette explosion des prix. Et puis, bien évidemment, si après on est sur des scénarios graves, on a 100%, 100 dollars le baril, là, en effet, on est vraiment dans une crise
Vincent,
majeure.
Vincent, on peut vous poser la question, est-ce que c'était une pompe de village ou est-ce que c'était sur l'autoroute, une grande chaîne ?
Non, c'est en ville, sur Périgueux.
D'accord. Et donc, il est possible que ce soit quand même aussi le pompiste qui se soit fait plaisir.
C'est ce que je dis.
Tu en es profité pour augmenter sa marge.
Ça, je ne sais pas la situation. Mais ce que je dis, c'est que dans la composition du prix, vous avez plusieurs éléments. Donc, c'est pas juste le prix du baril et vous avez une crise géopolitique. Le lendemain, ça augmente.
Anne-Sophie Alsif, il y a cette invitation de Jordan Bardella sur Twitter hier soir à ce que, un, la baisse de la TICPE et de la TVA soit immédiate pour anticiper. Et deux, il parle aussi de la suspension. Il demande la suspension immédiate des règles européennes de fixation des prix de l'électricité, actuellement indexées sur les prix du gaz, pour rétablir un prix national de l'électricité. Parce qu'au fond, vous nous l'avez dit, les prix du gaz sont importants. Est-ce que Jordan Bardella dit vrai lorsqu'il dit que ça aura une conséquence aussi sur le prix de l'électricité ?
Alors, ça a des conséquences sur le prix de l'électricité, mais pas que pour cette raison. Pourquoi ça a des conséquences sur le prix de l'électricité ? Parce que, justement, depuis 3-4 ans, on a une augmentation de l'électrification du parc, que ce soit l'industrie, les voitures électriques, qui ont explosé. Et donc, vous avez plus de demandes d'électricité.
Mais pardon, les prix de l'électricité, ils sont toujours fixés en fonction des prix du gaz ?
Alors oui, il y a une corrélation, puisque là, en effet, quand on voit ce qui se passe avec le détroit d'Hormuz, forcément, il y aura un impact. Après, ce qui se passe aussi, c'est que...
Mais j'avais l'impression que ça avait été après, justement, le début de la guerre en Ukraine.
Au niveau européen, justement, pour essayer de moduler par les actions de diversification. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a absolument aucune corrélation. Par contre, au niveau européen, il y a des mécanismes, justement, qui existent depuis qu'on a eu ces crises en Ukraine pour éviter qu'on ait des explosions. L'autre élément, c'est qu'on a aussi des stocks, des prévisions, et on l'a dit, de la diversification pour éviter de se retrouver dans un choc inflationniste majeur.
Et la question aussi du reste du commerce, parce que là, on parle évidemment de l'énergie et des prix de l'énergie. Mais selon l'agence Bloomberg, les plateformes d'e-commerce, donc notamment Amazon, Temu, Shein, pourraient rallonger leur temps de livraison. Ça aura aussi des conséquences sans doute sur les prix, parce qu'une partie passe aussi par le détroit d'Hormuz. Il n'y a pas que du pétrole.
Non, tout à fait. C'est ça l'une des conséquences. Vous avez plein de biens industriels qui passent. Et donc, vous allez avoir plusieurs scénarios où on va avoir une augmentation des prix des cargos. Et c'est déjà le cas. Donc, en effet, le distributeur peut se dire on augmente les prix. D'autres vont dire non, on va essayer de garder des prix attractifs pour rester compétitifs et on va allonger les durées de commande.
Merci beaucoup Anne-Sophie Alsif, chef économiste pour le cabinet d'audit BDO France. Et merci à Vincent pour son témoignage du côté de Périgueux. Il est 7h18 et c'est l'heure de remonter le temps. Arthur Chevalier vient de rentrer dans ce studio. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, le testament de Napoléon va être exposé au public.
Ah oui, c'est un document exceptionnel que l'empereur français a écrit à la toute fin de sa vie. Ce sont ses derniers mots. Un testament dont il y a encore des traces aujourd'hui.
Vous serez avec nous dans un instant pour nous le dire. Il y aura aussi Arnaud Demange qui va venir pirater le face-à-face. Mon invité à 8h30, c'est le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Ne bougez pas, on se retrouve dans 60 secondes sur RMC. Il est 7h19.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h20 et notre passionné de Napoléon est là, Arthur Chevalier. À partir de demain, les Français vont pouvoir découvrir, en vrai, le testament de Napoléon. Une partie de ce document exceptionnel sera exposée au Musée des Archives Nationales à Paris jusqu'à la fin du mois de juin.
Oui, et c'est un événement national, puisque ce testament...
Mondial, dites-le, Arthur, j'ai bien compris.
Puisque ce testament, on l'expose très peu habituellement. Il est conservé dans un coffre-fort qu'on appelle l'armoire de fer des Archives Nationales. C'est là où, en fait, on garde les archives les plus précieuses de l'histoire de France.
De quand date ce testament ?
Alors d'abord, il faut un peu de contexte. Voilà l'histoire. Nous sommes en 1815. Napoléon perd sa dernière bataille contre l'Angleterre, la bataille de Waterloo. Du coup, il est chassé du pouvoir par les pays européens contre lesquels il avait beaucoup fait la guerre. Il est un peu puni, si vous préférez. On décide de l'exiler loin, très très loin du continent européen, dans une toute petite île, une île anglaise, une sorte de caillou, au large de l'Atlantique Sud, perdu entre le Brésil et l'Afrique du Sud. Cette île, elle s'appelle Sainte-Hélène.
Donc en fait, il était prisonnier des Anglais.
Exactement, prisonnier des Anglais, et il vivait dans une maison très modeste. C'était une sorte de grande ferme qui s'appelait Longwood. Et au quotidien, c'était pas la joie. Le climat à Sainte-Hélène était horrible, humide, venteux. Et Napoléon n'avait quasiment rien à faire, donc il passait son temps à lire, à jardiner et à râler contre tout le monde, puisque oui, le jardinage, c'était une de ses passions. Il a lui-même dessiné les plans de son jardin à Sainte-Hélène. Il a lui-même choisi les plantes, les fleurs et les bosquets.
Et c'est donc sur cette île qu'il va écrire son testament.
Exactement. Les dernières années de sa vie, Napoléon souffrait d'un ulcère à l'estomac, très violent. Il était épuisé par la maladie. Mais en avril 1821, donc 6 ans après son arrivée, il trouve la force de rédiger son testament. Alors, qu'y a-t-il dans ce testament ? Alors d'abord, bien sûr...
Il trouve la force de rédiger son testament.
Ne vous moquez pas de moi, Pauline.
Mais non, rappelle... c'est votre amour de Napoléon.
D'abord, il rappelle son amour pour la France, évidemment pour sa femme, pour son fils. Et ensuite, il fait une très longue liste d'objets, d'argent et même de vêtements qu'il léguait à des fidèles, des proches ou des anciens soldats. Sa dernière volonté, c'est de reposer sur les bords de la Seine. Napoléon meurt le 5 mai 1821. Ses derniers mots, ce sont « France, tête de l'armée ». Il avait 51 ans.
Quand est-ce qu'on a découvert ce testament en France ?
Alors, le document arrive 5 mois après, donc au mois d'octobre à Paris. Et un problème s'est posé tout de suite. Napoléon avait légué beaucoup plus d'argent qu'il n'en avait réellement. Et oui, donc on a fait beaucoup de déçus. Il y a eu beaucoup de réclamations. Ça va être une sacrée affaire. La succession va durer 40 ans avec pas mal de surprises. Puisque Napoléon avait carrément légué de l'argent à des départements français, des départements qui avaient souffert de ces guerres. Et aujourd'hui, il en reste quelque chose. Par exemple, dans les Hautes-Alpes, vous avez un refuge de montagne qu'on utilise toujours aujourd'hui. Ce refuge a été payé grâce à l'héritage de Napoléon donné aux Hautes-Alpes. Ça s'appelle le refuge Napoléon-Var. C'est un lieu magnifique. Je vous invite tous à y aller.
Merci Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin et passionné, vous l'aurez entendu et compris, de Napoléon. Il est 7h23, Arnaud Demange.
RMC.
Demange pirate, le face-à-face.
Bonjour Arnaud, dans le face-à-face tout à l'heure à 8h30. Mon invité, c'est le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.
Oui, Jean-Noël Barrot. Les Américains l'appellent John Christmas Big Dick, les Allemands Johannes Weihnachten Grosse Schlong et les Brésiliens Juan Carnaval Bella Zizinho.
Oh
là, il est chez nous et c'est bien d'avoir le vice-ministre des Affaires étrangères.
parce que le vice-ministre, parce que le vrai ministre, Apolline, on le sait tous, c'est Alain Bauer.
Bien sûr,
c'est lui qui. Bref, notre ministre a déclaré que la France était prête à participer à la défense des pays du Golfe et de la Jordanie. C'est moi ou il veut s'incruster dans une guerre, en fait. C'est marrant que c'est le gars qui est pas invité aux soirées. Il sonne avec une bouteille de champomy dans la main. Ouais, en fait, je me baladais au volant de mon porte-avions et j'ai entendu l'ambiance. Je me suis dit, mais il donne une fête, Donald. Et il vient en 2003. Dominique de Villepin avait dit non aux Américains pour la guerre en Irak. 23 ans plus tard, en 2026, Jean-Noël dit « Eh les gars, vous auriez pu prévenir qu'il y avait un truc, on n'est même pas invité. » Ça craint, quoi. Jean-Noël Barrot, dans cette guerre, c'est un peu le ministre étranger aux affaires. Pas des affaires étrangères, mais dans l'autre sens. Alors, ceci dit, conflit à Gaza, guerre en Ukraine, le Groenland, maintenant tout le Moyen-Orient qui s'enflamme, il doit regretter que les motions de censure contre le gouvernement ne soient pas passées, en fait. Il doit se dire « Merde, salaud de socialiste !» Il serait tellement plus au calme, viré, puis recasé par Macron dans un job de pantouflard dont seul le président a le secret. Vous savez, genre président du Haut Conseil de promotion de la culture du Baobab en Norvège.
Bien sûr.
Ou membre exécutif du Haut Comité d'administration réformative du groupe de pilotage de la réforme des réformes. Un truc sympa et bien payé. Alors, on en parle moins, mais l'Afghanistan et le Pakistan sont eux aussi rentrés en guerre ce week-end. Mais c'est une guerre moins bien. On est d'accord, c'est moins fun. C'est une guerre Afghanistan-Pakistan, on ne regarde pas. C'est un peu comme un match entre Metz et Le Havre. Alors que le même soir, il y a Ligue des Champions entre les USA et l'Iran. Afghanistan-Pakistan, que le meilleur gagne, j'ai envie de vous dire. Ou mieux, que les deux perdent.
Ouais.
À mon avis, c'est possible. Emmanuel Macron a annoncé hier que le nouveau sous-marin nucléaire lanceur d'engins français se nommera l'Invincible. C'est classe. Moi, je l'aurais quand même appelé le Macron.
Il sera là, plus assumé.
Oui, mais il sera là pour couler des trucs en plus. Oh, un hôpital, feu. Oh, c'est comme chez nous. Le président a annoncé qu'il allait augmenter le nombre de têtes nucléaires. Vous vous rendez compte que sous Macron, les milliardaires et l'uranium se seront enrichis. Et rendez-vous pour parler de tout ça avec Jean-Noël Barrot, ou comme disent les Italiens, Giovanni Natale Mega Tortellini, et c'est à 8h30. À tout à l'heure.
À 8h30, le ministre des Affaires étrangères. Ça se passe sur RMC et BFM TV. Et d'ailleurs, Arnaud Demanche, on vous retrouve à 8h20. Il est 7h26 sur RMC. Dans un instant, la météo et le journal de 7h30. Et puis juste après le journal, on poursuivra sur la guerre qui embrase le Moyen-Orient. À 7h50, notre voix de gauche, Cécile Duflot, elle reviendra sur le discours d'Emmanuel Macron hier sur la dissuasion nucléaire. Emmanuel Macron qui réaffirme que le président de la République restera le seul à décider, le seul. Eh bien, Cécile Duflot, justement, n'est pas d'accord. Elle estime qu'il doit partager la décision et ne pas décider seul. Elle vous le dira, c'est l'édito de gauche à 7h50, comme tous les mardis. Il est 7h26, vous n'hésitez pas, vous nous appelez aussi au 3216. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
7h30, tout pile. Et c'est l'heure du journal d'Élise Nangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Le soulagement immense des premiers Français qui ont pu quitter le Moyen-Orient hier. Ils sont arrivés à Paris dans la soirée grâce à un vol commercial. Mais pour l'heure, toujours aucun rapatriement prévu par le Quai d'Orsay. Et ce, alors que les frappes sur l'Iran et sur le Liban se poursuivent ce matin. Mais le Premier ministre israélien promet « ça ne sera pas une guerre sans fin ». Et puis, plus besoin d'un master pour devenir enseignant. Un simple bac plus 3 suffit désormais.
Des premiers Français coincés au Moyen-Orient ont pu rentrer hier soir.
Ils ont pris l'un des tout premiers vols au départ d'Abu Dhabi dès la réouverture de l'espace aérien des Émirats Arabes Unis, visé par la riposte iranienne à l'offensive menée par Israël et les États-Unis. Ça n'est donc pas un rapatriement organisé par le Quai d'Orsay. Il n'y en a pas à ce stade. Autant dire que les 247 passagers de ce vol s'estiment très chanceux. Ils vous l'ont confié à leur arrivée à Roissy-Charles de Gaulle hier soir, Léonie Guilbeault.
Dans le hall des arrivées, Cécile et son mari serrent leur fille dans leurs bras. Les sourires, les embrassades et le ouf de soulagement.
Ça fait du bien.
La boule au ventre qui est descendue.
Oh, là, on est bien.
Partie pour un stage de 6 mois aux Émirats Arabes Unis, Clara s'est retrouvée bloquée suite aux frappes iraniennes sur Abu Dhabi.
Je suis très ravie d'être rentrée. Hein, je vous avoue, le climat était un petit peu anxiogène quand même. Là, ça fait du bien. Sur place, on ne pouvait pas sortir parce que c'était quand même pas hyper safe de rester dehors. Il y avait des explosions, des incendies, etc.
Une situation aussi stressante pour Aurélien et sa famille.
On a entendu beaucoup de bombardements, on a vu l'hôtel trembler, on a vu des avions de chasse passer au-dessus de nous. Non, rien de bien rassurant, surtout pour les enfants.
En transit depuis la Thaïlande,
Finlande.
C'était une escale à la base d'une heure samedi. On a atterri et on nous a dit qu'on ne repartirait pas tout de suite.
Ils sont restés bloqués 3 jours avant de pouvoir rentrer. Christophe, lui aussi, se rend compte de sa chance d'avoir eu un vol vers la France.
On a pris l'avion et ils ont fermé l'aéroport peut-être 2 heures après qu'on soit parti.
Le PDG d'Aéroports de Paris a indiqué que les perturbations pour les vols en provenance du Moyen-Orient pourraient encore durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines.
Et quel sera le sort des 400 000 Français présents dans la région? Je poserai la question au ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. C'est mon invité sur RMC à 8h30.
En attendant, la situation reste très tendue ce matin. Israël frappe simultanément l'Iran et le Liban. Une guerre que le Premier ministre israélien veut rapide et décisive. Il l'a dit cette nuit sur la chaîne américaine Fox News. Et il la justifie selon Benjamin Netanyahou. C'était maintenant ou jamais.
Les Iraniens ont commencé à construire de nouveaux sites, de nouveaux bunkers souterrains. Leur programme nucléaire et de missiles balistiques était sur le point de devenir intouchable. Si aucune action n'avait été entreprise maintenant, aucune action n'aurait pu l'être dans le futur. L'opération que nous menons peut être rapide et décisive. Cela pourrait prendre du temps, mais pas des années. Ce ne sera pas une guerre sans fin.
Et restez bien avec nous, puisque juste après le journal d'Élise Dangean, mon invité, ce sera l'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarqa. Un premier bilan.
Emmanuel Macron, lui, a présidé hier soir un 3e conseil de défense à l'Élysée après avoir donné un discours scruté de très près sur la dissuasion nucléaire française. Discours prononcé depuis l'île Longue, près de Brest. Un hasard de calendrier total puisque le président devait s'exprimer sur le sujet avant que la guerre n'éclate. Mais ça tombe bien, Cyprien Pézril, puisqu'il a annoncé une montée en puissance de notre force nucléaire.
Oui, à commencer par une augmentation du nombre de têtes nucléaires, c'est-à-dire la charge explosive des missiles. Combien Emmanuel Macron, volontairement flou, ne le dit pas, mais c'est une adaptation nécessaire.
Le demi-siècle qui vient sera un âge d'armes nucléaires. La France y tiendra tout son rôle. Pour être libre, il faut être craint.
Le président, le ton martial devant le téméraire sous-marin nucléaire français, présente surtout sa nouvelle doctrine.
Nous entrons sur le chemin de ce que j'appellerais la dissuasion avancée.
Avancée parce qu'élargie, pour l'instant, à 8 États d'Europe, Allemagne et Royaume-Uni notamment, coopération renforcée dans le renseignement, exercice conjoint et présence de la dissuasion française au-delà de ses frontières.
Nos forces aériennes stratégiques pourront ainsi se disséminer dans la profondeur du continent européen. Cette dispersion sur le territoire européen, à la manière d'un archipel de forces, compliquera le calcul de nos adversaires.
Et Emmanuel Macron d'insister en réponse à ses opposants politiques. Pas de partage, le président français et lui seul gardera la main sur le bouton nucléaire.
Il est 7h34 sur RMC. Le concours pour devenir enseignant, nouvelle formule, entre en vigueur aujourd'hui. Il est désormais accessible aux étudiants dès la fin de leur licence. Jusqu'ici, il fallait un master pour devenir prof, mais face aux difficultés de recrutement, le gouvernement a décidé d'ouvrir les portes du métier un peu plus grand et ça semble fonctionner puisqu'on constate une augmentation de quasi 50% du nombre d'inscrits par rapport à l'an dernier. Et ça, vous l'avez constaté à Rennes, Martin Lange.
Oui, comme Axel, en première année de master, il débute ce matin ses épreuves pour devenir professeur de PS.
Je mets toutes les chances de mon côté pour réussir. Moi, ça me permet de gagner une année et puis clairement une deuxième chance, comme on peut le passer aussi l'année prochaine en M2. Donc, on est dans la bonne position, on va dire.
Autre nouveauté de cette réforme, s'il réussit le concours, il intégrera une formation lors de laquelle il sera payé 1 400 € dès l'année prochaine. Une excellente nouvelle, selon Albin.
Pour nous, étudiants, je pense que ouais, c'est bien, ça nous forme un peu plus vite. On est payé aussi un peu plus tôt parce que... Attendre la fin du master pour commencer à travailler et être payé, bah c'est un peu long.
Achille lui prépare l'ancien concours ouvert au bac plus 5 et il s'interroge sur la formation de ses candidats moins diplômés.
J'estime même ne pas encore être totalement prêt à exercer pleinement ma fonction, donc sur des candidats L3, ça nécessitera de les accompagner.
Et de ce point de vue, justement, le compte n'y est pas selon Sébastien Vieille. Il est secrétaire national du syndicat enseignant, le SNALC.
Au départ, on était tout à fait favorable à cette mesure. Le problème, c'est les conditions dans lesquelles ça se fait et surtout la perte de qualité. Les futurs enseignants ne vont pas être bien armés.
Les syndicats qui saluent tout de même la hausse des inscriptions au concours tout en la nuançant. Beaucoup de candidats se seraient en réalité inscrits aux 2 concours, Bac plus 3 et Bac plus 5.
Et puis le Quintet Élise, 13h55 sur l'hippodrome de Chantilly.
Et voici, comme chaque jour, le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Le favori aujourd'hui, c'est le numéro 7, Sous la Neige. L'outsider, c'est le 5, Fève.
C'était le journal d'Élise Dangean, 7h36, et on va directement j'allais dire à la source, à la pompe, puisque Jean-Claude nous appelle de Perpignan. Et Jean-Claude, vous êtes gérant d'une station-service. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Apolline.
Comment ça va, Jean-Claude? Vous avez entendu tout à l'heure ces auditeurs qui disent « Ah, on a l'impression que les pompistes commencent déjà à gonfler les prix. Quel est le vrai du faux là-dedans »
Alors, c'est simple. Alors, bon, on va faire simple. Là, c'est moi, j'ai vendu ma station depuis hier matin. Donc, c'était le dernier camion que je faisais pour livraison. Par rapport à vendredi, le pétrolier m'a augmenté de 15 centimes à l'achat. Ah. 15 centimes hors taxe, hein, bien sûr. Hein. Donc là-dessus, vous rajoutez la TVA. Et moi, donc, je gagne. Enfin, mon successeur continue à gérer de la même façon. Il gagnera toujours 8 centimes au litre.
D'accord.
Sur le carburant. Donc c'est pas les pompistes qui se gavent. Ce sont les pétroliers en amont, c'est-à-dire Total, BP, Exxon, voilà.
Qui vous augmente alors que eux-mêmes, ce pétrole qu'ils vous vendent, enfin cette essence qu'ils vous vendent, ils l'ont en stock. Donc
ils
l'ont acheté avant le début de la guerre.
Exactement, tout à fait. Il y a plus de 3 mois de stock dans chaque entrepôt en France. Donc, vous imaginez la marge qu'ils vont se faire sur une seule journée. C'est impressionnant.
D'expérience. Est-ce que vous voyez comment les évolutions du prix, au-delà de la question effectivement là de ceux qui profitent à court terme, à moyen terme, ça va augmenter, c'est sûr?
Ah oui, ça va continuer. Parce que déjà, les approvisionnements, on va dire, qui vont être bloqués plus ou moins sur la région, d'accord. Donc les tankers vont avoir du mal à approcher pour la nouvelle et tout ça. Donc automatiquement, il va y avoir une baisse de stockage sur la région. Et les prix vont augmenter artificiellement, ça c'est sûr, au niveau de la pompe. Ouais. Mais ça sera pas les stations-service qui vont se gaver. Eux, ils gagneront même les grandes surfaces. Hein. Ouais. Les grandes surfaces sont à 2 centimes, 3 centimes de marge. Ils changeront pas leur politique. C'est pas dans l'air du temps. Ça.
Petite émotion quand même, Jean-Claude, j'imagine, quand le dernier camion est reparti.
Et oui, Apolline, c'est fini.
J'ai eu l'habitude de vous avoir régulièrement pour nous donner les prix à la pompe. Et donc, c'est la retraite?
Bah oui, alors je vous explique, on a une date identique tous les deux. Ouais. C'est-à-dire 68 ans le 21 mars.
Ah, le 21 mars, très belle date. Très belle date. C'est le printemps et c'est l'anniversaire donc de Jean-Claude et d'Apolline, je dois le dire. Félicitations à vous Jean-Claude aussi pour cette nouvelle période dans votre vie. On vous attend toujours autant au 32-16. Il est 7h38.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h42 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Bonjour Joshua Zarka.
Bonjour.
Vous êtes l'ambassadeur d'Israël en France. Israël qui promet que la guerre contre l'Iran sera rapide. Donald Trump, lui, a parlé hier de 4 à 5 semaines, voire même que ça durerait le temps nécessaire. Vous êtes donc aux côtés des États-Unis dans ces bombardements de l'Iran, mais également du Liban depuis hier. On va y revenir. Un mot d'abord sur cet objectif de guerre. Quand considérerez-vous que les objectifs de cette guerre sont atteints et quels sont ces objectifs?
Il y a 3 objectifs. Le premier est de nous débarrasser complètement des capacités résiduelles dans le domaine nucléaire qu'avaient les Iraniens. Pendant la guerre des 12 jours, nous avons attaqué le programme nucléaire, mais immédiatement après cette attaque, les Iraniens, à l'époque Khamenei, avaient décidé de faire rentrer de le programme nucléaire très profondément dans les souterrains qu'ils avaient spécialement construits pour cela, ce qui ne nous aurait pas permis d'arrêter le programme nucléaire quand nous aurions pris la décision. Donc, le programme nucléaire. Secondo, le programme balistique. Les Iraniens, depuis la guerre des 12 jours, produisaient quelques dizaines jusqu'à une centaine de missiles balistiques de longue portée par mois. Donc, ils avaient repris la construction avec l'aide de la Chine pour pouvoir menacer mon pays, et non seulement mon pays, mais aussi toute la région. Et le troisième but est d'affaiblir le régime afin d'aider le peuple iranien de se débarrasser de ce fléau qui est le fléau pour toute la région.
Affaiblir le régime, ça ne veut pas dire renverser le régime.
Vous savez, on ne peut
J'imagine que chaque mot que vous utilisez est patiemment choisi.
Voilà, on ne peut pas renverser, on ne peut pas changer de régime, faire un changement de régime en attaquant avec des attaques de l'air. C'est clair. Et ce n'est pas à nous de choisir le prochain régime iranien. C'est aux Iraniens eux-mêmes. Ce que nous faisons, c'est les aidons à le faire, pas plus.
Quelle quel chaos partout, quel embrasement. L'aviez-vous anticipé quand vous voyez la réplique iranienne à la fois sur Riyad, sur le Koweït, même Chypre, le blocage du détroit d'Ormuz? Est-ce que vous anticipiez ce chaos?
Nous anticipions être attaqués, nous anticipions que les bases, c'est les Américains nous-mêmes, anticipions que les bases américaines allaient être attaquées. Mais là, on voit exactement le caractère inhumain de ce régime, parce que c'est pas nous qui les attaquent, c'est pas Israël qui les attaque, c'est pas les Américains qui les attaquent. Ils attaquent tout ce qui est à leur portée. Tout simplement, tout ce qui est à leur portée. Des civils au Bahreïn, des civils à Dubaï, à Abu Dhabi, des civils au Koweït, même à Oman, qui est un pays allié pour eux. Ils attaquent partout, afin de créer un chaos. L'idée pour eux est de vraiment faire sentir à la région le prix de ce qu'est cette guerre.
Je rappelle, Joshua Zarqa, que vous êtes l'ambassadeur d'Israël en France. La question du Liban, évidemment, ouais. Le Hezbollah qui a donc attaqué le nord du Liban, Israël qui réplique au moment où l'on se parle, il y a des bombardements sur le Liban, y compris Beyrouth. Pourquoi Beyrouth ?
D'abord, Hezbollah a attaqué le nord d'Israël, pas le nord du Liban.
Le nord d'Israël, bien sûr.
Et Beyrouth, c'est la Dakhia. Ce que nous avons attaqué, c'est la Dakhia. D'abord, hier, nous avons... La Dakhia, c'est le quartier qui est dirigé, dans lequel tout le Hezbollah est géré. Le headquarters.
Le quartier général du Hezbollah.
Du Hezbollah se trouve à Beyrouth, dans le quartier qui s'appelle la Dakhia. Et il y avait aussi une des cibles qui a été attaquée hier, c'était la banque du Hezbollah. C'est une banque, simplement là où le Hezbollah recevait l'argent qui leur était envoyé par l'Iran. L'année dernière, ils ont reçu $1 milliard de l'Iran, justement pour financer leurs activités, pour financer le terrorisme. Et donc hier, nous avons attaqué aussi cette banque et nous avons détruit tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Et ce qui ne leur permettra pas de pouvoir se rétablir.
Vous avez évoqué, enfin pas vous, mais le gouvernement de Benjamin Netanyahou a évoqué la possibilité d'envoi de troupes au sol au Liban. Vous nous le confirmez ce matin ?
C'est une des options, bien sûr, si le Hezbollah n'arrêtait pas de tirer. Le Hezbollah a pris une décision stratégique de se joindre à la guerre. Il pourrait prendre une décision d'arrêter de tirer sur Israël.
C'est ce
là,
que lui demandent d'ailleurs les autorités libanaises.
Oui, bien sûr.
Pour la première fois, on a l'impression d'une rupture nette entre les autorités libanaises et le Hezbollah,
à qui
ils ont demandé de cesser les bombardements, qu'ils n'ont vraisemblablement pas.
Sur un des journaux libanais hier, il y avait le titre était le suicide du Hezbollah.
C'est l'Orient le jour, l'Orient le jour de ce matin qui a été publié en effet hier soir, c'est le Hezbollah suicide le Liban.
Vous savez, nous n'avons aucune dispute avec le Liban, avec le pays du Liban, rien. Nous n'avons pas de dispute territoriale, c'est un pays qui pourrait être appelé ami. Nous avions même un accord de paix en 1983 avec le Liban. La seule raison pour laquelle il y a ces hostilités, c'est le Hezbollah qui est dirigé par l'Iran.
Pourquoi vous n'avez pas prévenu la France ?
Parce que c'est des opérations qui sont israélo-américaines et que ces genres de choses d'opérations, il est préférable de les garder dans un cercle très très restreint.
Une question sur les bombardements samedi sur une école du sud de l'Iran à Minab. Les autorités iraniennes parlent de 168 morts dans cette école de filles. Est-ce que c'est un bilan que vous-même vous confirmez ?
Non. D'abord, ce n'est pas un bilan que nous confirmons. Secondement, ce n'est pas une attaque israélienne.
Ce n'est pas une attaque israélienne ?
Non.
C'est quoi, alors ?
Je ne sais pas. Certains sites parlent d'une attaque iranienne même. Des entités d'opposition iraniennes disent du fait que c'était une attaque manqué par les Iraniens, un missile qui était tombé là où il ne devait pas tomber.
Vous affirmez que ce n'est pas Israël qui est à l'origine de cette frappe. Les États-Unis disent examiner les faits. Eux-mêmes, ce ne serait pas une attaque américaine ?
Je parle pour Israël. Je sais ce que je dis. Les Américains, je pense, disent la même chose. Je pense que c'est plutôt une erreur de frappe iranienne qu'autre chose. Je sais que ce n'est pas une attaque israélienne.
Ce n'est pas une attaque israélienne. Non. Et sur le nombre de morts, est-ce que vous savez,
non.
Vous n'avez pas d'informations sur le terrain.
On n'a pas d'informations. C'est impossible pour nous de savoir exactement ce qui s'est passé, sur combien de morts il y a eu sur place. Je sais que ce n'est pas une attaque israélienne.
On apprend par le Financial Times d'Israël qu'il y aurait eu un piratage des caméras de circulation en Iran pour repérer tous les allers-retours et tous les trajets des officiels iraniens de leur voiture. Est-ce que, effectivement, vous pouvez nous confirmer cette information ce matin ?
Ce que je peux vous confirmer, c'est qu'Israël a des capacités de renseignement très développées en Iran et que nous savions et nous savons énormément de ce qui se passe à Téhéran, dans le régime, et où se trouvait, comme vous avez pu remarquer, chacun des dirigeants du régime le matin de l'ouverture de cette guerre, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne sont plus avec nous.
Un dernier mot sur la situation en France. Le ministre des Affaires, de l'Intérieur hier a dit relever les niveaux de sécurité pour toutes les cibles potentielles. Ouais. Il avait un peu plus tôt évoqué aussi la question des lieux de culte juifs. Est-ce que vous avez une inquiétude pour les juifs de France ?
Nous avons une inquiétude. Vous savez, l'Iran a toujours utilisé, le régime iranien a toujours utilisé le terrorisme comme quelque chose de légitime, comme un outil légitime contre Israël, contre ses dissidents. Pour eux, le terrorisme en France, c'est quelque chose de légitime. Alors oui, bien sûr, nous sommes inquiets. Je suis inquiet pour mon ambassade, pour mon équipe. Je suis inquiet pour la communauté juive de France. Mais j'ai aussi entièrement confiance à la République française qui combat ce terrorisme et qui combat ce fléau depuis toujours.
Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce
Merci
matin. Joshua Zarka, vous êtes l'ambassadeur d'Israël en France. Je notais également qu'à 8h30, mon invité sur RMC, BFM TV, ce sera le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Il est 7h51 dans un instant, c'est la voix de gauche, comme tous les mardis. Cécile Duflot, vous allez revenir sur le discours d'Emmanuel Macron hier, sur la dissuasion nucléaire. Il a reconfirmé que seul le président de la République pourrait décider. Et ça vous plaît pas, Cécile ?
Non, il a essayé de dire que la doctrine française devait changer. C'est intéressant, mais il peut pas le faire seul, surtout dans ce contexte politique.
Vous nous le dites dans un instant. Il est 7h51.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, la voix de gauche, Cécile Duflot. Mais d'abord le bonus. Avec vous, Mathieu, qui va représenter la France à l'Eurovision alors ?
Pour perdre à nouveau, diront les mauvaises langues, ou pour y croire encore une fois. En tout cas, pour faire mieux que l'an dernier. Louane, qui avait fini 7e, Slimane l'année d'avant 4e, Barbara Pravi 2e en 2021. Ça va mieux, mais on est toujours à rapper Marie-Myriam, l'oiseau et l'enfant 77. Cette année, on mise tout sur la voix, comme vous l'entendez. Une jeune artiste, Monroe, révélée par l'émission Prodige de France Télé, un télécrochet pour enfants virtuoses du classique. Et Monroe, soprano franco-américaine de 17 ans, y a ébloui le public et le jury. Comme elle a ébloui, ce que vous entendez, les Anglais en gare de Londres, King's Cross, avec cette reprise de Rosalia façon flash mob, Monroe, mère française, père américain, né à Salt Lake City, à 17 ans, ça pourrait être la relève de la France à l'Eurovision le 16 mai prochain à Vienne, on y croit.
RMC, Apolline Matin. Voix de gauche, voix de droite.
Il est 7h53 et c'est l'heure de la voix de gauche comme tous les mardis avec vous, Cécile Duflot. Cécile, écoutez, c'était hier sur la base navale de l'île Longue dans le Finistère.
Le demi-siècle qui vient sera un âge d'armes nucléaires. La France y tiendra tout son rôle. Pour être libre, il faut être craint.
Emmanuel Macron qui était donc au pupitre avec derrière lui l'un des 4 sous-marins nucléaires français. Vous vouliez revenir sur ce discours, Cécile Duflot. Pour vous, Emmanuel Macron ne doit pas décider seul de la défense nationale.
Oui, alors la scénographie était parfaite, hein. Le président de la République seul devant un sous-marin à l'île Longue qui joue au grand soldat pendant que le monde brûle. L'effet de dramaturgie était parfait, mais il y a quand même un gros hic. Et le gros hic, c'est qu'on... Personne n'imagine qu'un homme seul peut engager l'avenir de 450 millions d'Européens sans qu'il y ait un seul débat, même à l'Assemblée nationale ou au Parlement européen. C'est intéressant, sa réflexion, d'expliquer les nouvelles menaces, comment travailler sur une dissuasion avancée. D'ailleurs, les anciens présidents français avaient tous, plus ou moins, y compris d'ailleurs François Mitterrand et même, pour une part, le général de Gaulle, tâtonnaient autour de cette question. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas imaginer qu'un seul doigt sur un bouton remplace le vote et l'adhésion de millions de citoyens.
Oui, mais enfin, Emmanuel Macron, c'est, en tant que président de la République, le chef des armées. C'est son rôle officiellement.
Effectivement, c'est son rôle, mais le domaine réservé ne signifie pas que le président de la République puisse engager seul, au-delà du discours, l'ensemble de la politique française. D'ailleurs, il n'en a pas les moyens. Et le problème dans ce contexte français qui est aussi compliqué, c'est que dire qu'on a des milliards pour étoffer l'arsenal, qu'on ne va plus compter les têtes nucléaires, mais que on ne peut pas engager la transition écologique ou on n'a plus d'argent pour l'hôpital public, eh ben, on risque de créer une tension avec la société française. Parce que pendant qu'on discute de la portée des missiles, on oublie aussi que la menace existentielle, elle vient pas d'Iran pour nous tout de suite. Elle vient de notre inaction climatique.
Ouais, enfin là, c'est vrai que président de la République, c'est aussi choisir, c'est aussi décider, c'est la Constitution.
Effectivement, mais il faut avoir les moyens. Enfin, c'est le budget de la défense. À la fin, il sera voté par l'Assemblée nationale. Et donc, la question dans une fin de mandat qui plus est sans majorité, c'est comment on crée du consensus. On a vu les réactions politiques très divergentes. Et je le dis, je pense que son rôle, ce serait davantage de créer de l'unité nationale dans un moment compliqué. Et cette unité nationale passe par le dialogue et par le consensus. C'est à peu près le contraire de ce qui s'est fait, de ce qui s'est fait jusqu'à maintenant. Et c'est dommage parce que je pense que justement, face à l'histoire, plutôt que d'être debout devant un sous-marin, il devrait être capable de créer ce consensus et cette unité nationale du peuple français.
Ce qui vous a choqué aussi, Cécile, c'est l'annonce que la France ne communiquera plus sur le chiffre précis de son arsenal nucléaire.
Oui, la conclusion de son discours, c'est que pour être libre, il faut être craint. Je pense que pour être libre, il faut être en paix. Et le chemin de la désescalade nucléaire a été un chemin de paix pour l'ensemble de notre continent sur les 50 et même les 70 dernières années. Donc il faut absolument renouer avec ce chemin et se dire que c'est davantage de solidarité, d'apaisement et qui permet la sécurité, que la vraie puissance, c'est pas de pouvoir décider seul de la fin du monde ou de faire exploser une bombe nucléaire, mais de décider ensemble de son avenir. C'est là que le président de la République serait pleinement dans son rôle.
Merci Cécile Duflot. Tous les mardis, la voix de gauche. Demain, ce sera la voix de droite. Il est 7h57. On se retrouve dans un instant. La météo et le journal. Et à la une du journal de 8h, nous serons en direct de Beyrouth avec l'une de nos envoyées spéciales. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.